On l'appelle l'itinérant à la voie d'or. Ah, là, hein, son nom, ça, vous vous souveniez pas de son nom, mais là, l'homme à la voix d'or, vous savez c'est qui. Et c'est pas parce qu'il chante. C'est parce qu'il a une voix à peu près comme la mienne. Hein? C'est une belle voix. Il y en a qui ont eu ce don-là. Et, qu'est-ce que vous voulez, j'ai hérité d'une telle voix. Une voix d'or. J'aimerais chanter, par contre. J'aimerais chanter, savez-vous comme qui? Avez-vous une idée? Pas Céline Dion. Quoique, si j'étais une femme, j'aimerais chanter comme elle. Pavarotti, ce serait, ouais, ce serait pas pire. Qui? Grégory Charles. Comme qui est-ce que j'aimerais chanter, chérie? Hein? Voilà, hein? Elle connaît mon cœur. Josh Groban. Il me semble qu'il a une voix pour Dieu, lui. Il a une voix pour Dieu. Alors, cet homme itinérant à la voie d'or a été découvert par hasard par un conducteur qui s'en allait probablement au travail. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement de où est-ce qu'il s'en allait, mais Ted Williams était sur le coin d'une rue et il avait une petite pancarte. Et sur la petite pancarte, ça disait « Si vous me donnez $1, je vais vous faire entendre ma voix d'annonceur et je vais dire ce que vous voulez que je dise », quelque chose comme ça. Alors, cet homme s'est arrêté, ce conducteur, et avait avec lui une petite caméra pour enregistrer et il a eu la brillante idée d'enregistrer sa performance. Et à un moment donné, lors d'une émission de radio, parce que l'homme en question travaillait à une station de radio, il a décidé de faire passer sa petite audition sur le coin de la rue qu'il a faite de Ted Williams, l'homme à la voix d'or. Et ça a été réaction instantanée. Et là, son histoire d'itinérant, et puis là, apparemment, il avait réussi à sortir de l'alcoolisme, de la toxicomanie. Et puis, à un moment donné, elle a été passée sur YouTube et là, ça l'a fait boule de neige. Et là, tous les médias aux États-Unis voulaient l'avoir pour une entrevue, puis savoir qui il était, entendre sa voix. Et là, il y a eu des offres d'emploi de toutes sortes de compagnies. Là, tout à coup, sa vie passait du tout au tout. En l'espace de quelques heures, on pourrait dire ça comme ça, à partir du moment où il a été découvert, et là, il est devenu une vedette. Et là, il est allé même jusqu'à Hollywood, et ainsi de suite. Et puis, ce qui était un peu particulier, c'est que il disait avoir trouvé Dieu, et que sa vie avait changé parce qu'il avait trouvé Dieu. Et à un moment donné, il a été réuni avec sa mère, et ça faisait 10 ans qu'il ne s'était pas vu. Et sa mère a dit ceci, « Ça fait 10 ans que je prie pour lui, que je prie pour mon fils. » Et elle lui a dit, quand elle l'a rencontré, « Déçois-moi pas cette fois-ci. » Mais savez-vous ce qui s'est passé? C'est que présentement, Ted Williams est en réhabilitation dans un centre de désintoxication parce que, en fait, il n'était pas si libéré qu'il avait prétendu l'être lors de toutes ses entrevues et tout ça. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'il veut de l'aide maintenant, il veut s'en sortir et c'est une histoire assez quand même intéressante. Maintenant, je vous amène cela parce que le récit d'aujourd'hui qu'on va regarder ce matin, décrit deux histoires qui, à mon sens, sont encore plus fascinantes que celles de Ted Williams. Il montre la guérison de deux personnes. Ces personnes-là ont pu recevoir cette guérison à cause de gens qui les avaient à cœur. Autrement dit, c'est même pas ces personnes-là qui sont allées à Jésus d'elles-mêmes. C'est quelqu'un d'autre qui les a emmenés à Jésus ou à l'attention de Jésus lui-même. Quoique le récit biblique montre qu'il existe plusieurs différences entre les deux miracles, l'un envers une fille, une jeune fille qui était sous l'emprise d'un esprit impur, et l'autre envers un sourd qui avait de la difficulté à parler, les deux ont un même point en commun. Ils ont toutes les deux obtenu de Jésus un miracle grâce à l'intercession et la foi audacieuse de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui les connaissait. Dans un cas, il s'agit d'un parent, et dans l'autre cas, il s'agit d'un groupe d'amis, je présume, du moins un groupe qui connaissait bien cet homme qui était sourd. Je pense que ce texte peut être une grande source d'encouragement pour chacun d'entre nous, soit en tant que parent croyant dont l'un de ses enfants est sous l'emprise de l'ennemi, ou soit en tant que personne qui est en contact avec un croyant ou qui fait partie d'un groupe de croyants qui peut intercéder auprès de Jésus en sa faveur à l'égard d'un besoin qui demande une intervention divine et surnaturelle. Prions. Seigneur Jésus, que ta parole est riche, qu'il est bon pour nous de sonder tes Écritures, qu'il est bon pour nous de venir à tes pieds et d'entendre ta voix, non la nôtre, ni celle de tant d'autres autour de nous, encore moins celle de l'ennemi, mais entendre la tienne. Découvrir ta perspective de la réalité et de la vie dans laquelle on est. Réalité qui parfois est troublante, terrassante, semble sans issue. Mais auprès de toi, il y a de l'espérance, parce que tu es vivant, compatissant et tout-puissant. Quelle joie de te connaître. Quelle joie de savoir que des gens me connaissent et qu'ils te connaissent et qu'ils peuvent prier pour moi, tout comme moi je peux prier pour eux. Quelle grâce de faire partie de ton Église, Jésus. Ouvre nos yeux ce matin. Parle à nos cœurs. Rencontre-nous, Jésus. Tu connais chacun de nous ce matin. Que nos cœurs puissent s'ouvrir à toi. Que ta parole puisse trouver une écoute à l'intérieur de nous. Que notre foi soit stimulée ce matin pour qu'on laisse cette assurance en nous que tu es là, que tu es compatissant et que tu entends nos prières, autant pour nous-mêmes que pour d'autres. Merci encore, Jésus, de ce qu'on peut se tourner vers toi. Amen. Alors, le récit biblique est le suivant, Marc 7, verset 34, verset 24, excusez, à 37. Jésus partit de là, et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, du moins pas très longtemps. Car une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mets les petits chiens sous la table, mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, «
à cause de cette parole. Va. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Verset 31. Jésus quitta la contrée de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant la contrée de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de lui imposer les mains. Il le prit à l'écart loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils le dirent, ils publiaient la nouvelle. C'est pas la première fois que ça arrive à Jésus, hein? Finalement, au verset 37, ils étaient tous dans un étonnement extraordinaire. Il disait, ah, j'aime ça, hein, ici. Il fait tout à merveille. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Ça veut dire, il fait tout. Tout ce qu'il fait, il le fait tout à merveille. C'est pas fantastique? Y a-t-il quelque chose qui fait qui n'est pas à merveille? Il fait tout à merveille. Et là, il rajoute, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Et là, ici, c'est même au pluriel, montrant que d'autres, sûrement, ont eu la même touche de la part de Jésus. Maintenant, juste avant d'aller dans le texte, c'est important de comprendre qu'ici, Jésus sort un peu de l'action dans laquelle il était depuis un bon certain temps, où en Galilée, il y a un ministère, ça bouge, il y a eu beaucoup de miracles, là, il y a de la controverse, il y a de l'opposition contre lui, même Hérode est un peu comme en train de s'inquiéter de ce qui se passe avec lui, de son ministère, qui il est, lui, tout ça. Alors, il y a beaucoup de controverses, dans le fond, autour de son ministère. Et là, Jésus ici sort de cette zone chaude et puis il s'en vient ici à l'écart. Et là, ça dit qu'il est dans la région de Tyr, de Sidon et aussi dans la Décapole. La Décapole, en fait, c'est un ensemble de 10 villes qui étaient sous l'influence grecque et c'était situé à l'est du Jourdain et donc au sud de la Galilée où Jésus avait principalement son ministère. Et ces 10 villes-là avaient été créées en 64 avant Jésus-Christ, par l'empereur Pompée. Et dans le fond, ce qu'il voulait, lui, à travers ça, c'était de préserver la culture grecque dans un environnement qui était sémitique, c'est-à-dire où c'était des Juifs qui vivaient en grande majorité. Donc, ça, c'est la Décapole. Et Tyr et Sidon, ces deux villes phéniciennes, qui se trouvait être sur la côte méditerranée, donc le bord de la mer Méditerranée, et qui se trouve aussi au nord de la Galilée. Alors, cette région se situait justement à l'extérieur du territoire d'Israël et au-delà de la juridiction d'Hérode et des leaders religieux. Il semble ici que Jésus se retire de cette région de la Galilée où il est très actif et tout ça pour être à l'écart avec ses disciples, à la fois pour se reposer, mais en même temps, je pense, pour se concentrer sur l'enseignement qu'il veut faire avec ses disciples, les préparer à ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est la crucifixion et aussi le départ de Jésus et naturellement le ministère des 12 apôtres. Donc Jésus, on sait que plus son ministère avançait, plus il prenait du temps à part avec ses disciples. Et ici, c'est probablement ce qui se passe. Jésus les amène à l'écart pour pouvoir passer du temps avec eux en particulier. Maintenant, Même s'il n'y avait pas Internet à l'époque, et il n'y avait pas YouTube, et il n'y avait pas les médias, il y avait encore des personnes. Parce que ça dit, ça n'a pas été long, que même si Jésus voulait être à l'écart, puis pas savoir qu'il était là, un peu incognito, pour pas que les paparazzis courent après lui, il n'a pas été capable d'y échapper. Et une femme, le texte nous dit, qui était justement une non-juive, une grecque, Matthieu parle d'une cananéenne, syro-phénicienne, donc qui vivait dans cette région, a entendu parler de Jésus. Et elle a su, par un petit oiseau, où il se trouvait. Et elle est allée vers lui, avec une requête très précise. Alors, qui est cette femme? Donc, en plus d'être une non-juive, le texte nous dit qu'elle a une jeune fille qui est possédée d'un esprit impur. Matthieu lui rajoute, au chapitre 15, verset 22, que sa fille était cruellement tourmentée. Donc, ça devait être assez prenant pour cette mère de voir sa fille, et il semble qu'elle était une jeune fille, d'après le mot qui est utilisé ici pour parler de la fille. Donc, elle était cruellement tourmentée. Alors, comment ça se manifestait? Le texte ne le dit pas, mais on sait que c'était du tourment, puis c'était cruel. Alors, ça pouvait être assez particulier. On sait dans un autre cas qu'il y avait un jeune homme, lui, il écumait, il se jetait par terre. Des fois même, le démon pouvait le jeter dans le feu, donc sa vie était en danger. Alors, il y avait des manifestations sûrement assez troublantes que la mère pouvait voir, que sa jeune fille était aux prises avec ça, et naturellement, elle ne savait pas quoi faire. Il faut comprendre, c'est une non-juive. Okay? Elle n'a pas l'héritage du peuple juif, là, au niveau de la révélation et de toute la connaissance de Dieu et de comment Dieu est puissant et tout ce qu'il peut faire. Elle avait ses dieux, elle avait sa conception des choses, mais une chose est certaine, elle n'avait pas cet héritage que les Juifs avaient. Une autre chose que le texte nous dit, c'est qu'elle a entendu parler de Jésus. Comment, on ne le sait pas, mais on sait qu'elle a entendu parler de Jésus. Au chapitre 3 de Marc, on sait que des gens de cette région-là venaient vers Jésus en Galilée pour rencontrer Jésus. Donc, alors, ces gens-là avaient vu des choses, avaient entendu des choses. Donc, alors, c'est un peu normal qu'en retournant dans leur coin, ils savaient que Jésus avait un ministère, ils savaient qu'est-ce qu'il enseignait, ils savaient qu'il était puissant en œuvre, qu'il faisait des miracles. Alors, certainement qu'elle était en contact avec de telles personnes qui connaissaient Jésus, du moins son ministère. Et elle en a entendu parler de ce Jésus. On voit aussi dans le texte qu'elle est une mère attentionnée et même déterminée. Dans Matthieu, encore là, au chapitre 15, verset 23, ça dit, ce qui est intéressant, parce que c'est comme si Matthieu, lui, quand il regarde la scène, il parle de la partie qui s'est passée à l'extérieur de la maison, tandis que Marc, lui, choisit de nous parler seulement de ce qui se passe dans la maison, quand Jésus est là, puis que là, la femme vient vers lui. Alors ici, Matthieu dit ceci, « Jésus ne lui répondit pas un mot à la femme qui criait après lui, « Aie pitié, fils, Jésus, aie pitié de moi, fils de David. » Et puis, Jésus ne réplique pas à son cri d'alarme et cette demande qu'elle a et qui se passerait à l'extérieur à ce moment-là de la maison. Ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Fais quelque chose, renvoie-les, car elle crie derrière nous. » Alors, la scène se passe justement à l'extérieur, donc, il semble que ça a duré un certain temps. Elle n'a sûrement pas crié une seule fois, mais elle criait constamment quelque chose comme « Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et les disciples ont dit « On n'est plus capable de l'entendre. » Une mère peut aller jusqu'au bout du monde pour un de ses enfants. Je ne sais pas si vous remarquez souvent, il y a quelque chose que la mère est prête à faire, que des fois le père, nous on pense, je ne sais pas, Je dis pas que les pères font pas beaucoup pour leurs enfants, là, je voudrais surtout pas insinuer ça. Mais on sait qu'il y a un petit quelque chose chez la mère, probablement à cause du fait qu'elle a porté l'enfant. Mais une mère, comme si le père il est pas là, il est pas présent, on sait pas où il est, sûrement en train de travailler, quelque chose comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que la mère, elle, puis là on voit sa détermination. Hein? On voit que elle, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Puis je pense que elle s'est dit, ma fille qui est tourmentée cruellement. Puis elle a peut-être essayé plein d'affaires, puis il n'y a rien qui marchait. Puis là, elle entendait que Jésus, là, waouh, il fait des miracles incroyables, des guérisons incroyables. Et là, elle n'a sûrement pas entendu énormément de choses sur Jésus. Autrement dit, elle a très peu de connaissances sur Jésus et sur tout l'aspect du Messie, puis ainsi de suite, là, des promesses et tout ça. Elle n'a pas ça là, comme arrière-plan. Mais une chose qu'elle sait, c'est qu'il y a de l'espoir en Jésus. Et s'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut faire quelque chose pour mon enfant, bien c'est lui. Puis il n'y a pas personne qui va m'arrêter. Il n'y a pas une distance que je ne pourrais pas franchir pour le faire. Puis c'est pas vrai que je vais m'en retourner sans avoir eu l'occasion de rencontrer Jésus. Quitte à être achalante. C'est ça qui se passait ici. Merci aux disciples qui ont été achalés. Hein? On sait aussi que le texte nous dit qu'elle est venue se jeter à ses pieds. Alors, à un moment donné, elle a eu accès à Jésus en le suppliant de chasser le démon de sa fille. Et c'est Matthieu, justement, qui dit dans chapitre 15, verset 22, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et là, elle lui exprime la requête vis-à-vis de sa fille. Maintenant, le texte nous dit aussi qu'elle a obtenu de Jésus le miracle qu'elle est venue lui demander, la guérison complète de sa fille. Maintenant, sa fille n'est pas là. Hein? Sa fille n'est pas présente, là. C'est juste la mère qui est allée voir Jésus. Et juste sur la parole de Jésus, qui a dit, « Va, ta fille est guérie, elle leur virait de bord, puis retourner chez elle. » Le texte nous dit, quand elle est arrivée chez elle, elle a trouvé sa fille sur le lit, puis elle était guérie. Elle savait qu'elle était guérie. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus surprenant dans le récit de cette femme? La réponse de Jésus à sa requête, ou la réplique qu'elle donne à la réponse de Jésus? Parce que la réponse de Jésus, c'était ceci. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Qui est le petit chien ici? C'est la femme. OK? Sa fille. Parce qu'il s'agit de sa fille aussi ici, là. Wow! Comment vous auriez réagi, ça, si Jésus vous avait dit une affaire de même? Auriez-vous vu de la misère? Une parole dure, ça, hein? Ça sort de la bouche de Jésus, là. Puis s'il n'y a pas de question, c'est pas une question d'une version, un autre, tu sais. C'est vraiment, Jésus a vraiment dit ça, là. Ça ne serait pas bien de faire ce que tu me demandes, parce que je prendrais la nourriture des enfants. Les enfants, c'est qui ici? C'est le peuple juif. Et je le donnerai au petit chien, c'est-à-dire ta fille, puis toi qui demandes cette requête-là, donc j'accorderai une faveur à toi puis à ta fille. Bon, on va passer à autre chose. Mais là, la mère, elle ne sait pas en faire jeu d'un fleur du tapis. Hein? Elle n'a pas dit « Wow, minute, Jésus, fais attention à tes paroles. Attention à ce que tu dis là. » Hein? C'est assez offensant. Non, elle a dit « Oui, Seigneur. » En voulant dire « OK, je comprends. Je ne veux pas m'argumenter là-dessus. » Et vite, hein? Mais les petits chiens sous la table, ils mangent les miettes des enfants. Wow! Trouvez ça bon? Vous aimez la réponse de la femme, hein? Vous n'aimez pas celle de Jésus? Je vais essayer de vous donner un peu ce qui se passe ici, OK? Je vais le faire du mieux que je peux. En utilisant ce proverbe, Jésus n'est pas en train de s'associer aux préjugés que les Juifs avaient envers les non-Juifs. C'est vrai que les Juifs référaient aux non-Juifs sous l'appellation de « chiens », OK? En parlant qu'ils étaient des non-Juifs. Mais Jésus ici ne s'associe pas à leur attitude ou à leurs préjugés, où là, ils étaient vraiment en train de se dissocier complètement des non-Juifs. Ils ne voulaient pas toucher ou interagir. S'ils touchaient un non-Juif, il était impur, puis ainsi de suite. Alors, il y avait toute cette association-là. Mais vous vous souvenez de Pierre, qui, à un moment donné, n'a même pas voulu aller vers la famille de Corneille parce qu'il disait, « Seigneur, je peux pas, c'est impur. » Puis là, Jésus lui a montré une vision pour essayer de changer sa perception qu'il avait. Donc, ça a été long pour les Juifs d'aller dans cette direction-là, de considérer que les non-Juifs, là, en fin de compte, sont aussi visés par l'amour, la compassion et la grâce de Dieu. Donc, Jésus n'a pas cette attitude-là négative. C'est évident aussi lorsqu'on prend en considération les paroles que Jésus donne lui-même dans Luc 4, 25, 26 et Matthieu 8, 10 à 12, où Jésus montre sans équivoque que même Dieu, à un certain moment donné dans la vie d'Israël, a eu plus de compassion pour les non-Juifs qu'il en a eu pour son propre peuple. Et au temps d'Élie. Donc, ça aussi, c'est une chose qu'on voit que Dieu aimait les non-Juifs. Que dire aussi de cet épisode où Jésus fut impressionné devant la foi de ce centurion romain en Matthieu 8, 10 à 12, où il dit ceci, « Je n'ai trouvé chez personne, même pas en Israël, une si grande foi que cet homme, qui est un non-juif. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Il parle de qui ici? Des non-juifs dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il parle de qui ici? Des Juifs. Et les Juifs n'aimaient pas ça entendre ça. Donc, c'est sûr que Jésus, il n'y a pas un parti pris. Vous comprenez? C'est pas ça qui se passe la game ici, là. Maintenant, je pense que par ce proverbe, Jésus veut plutôt sous-entendre une parole qui était vraie ou une vérité qui était importante. Il n'est pas bienséant de négliger les enfants aux dépens des petits chiens. Autrement dit, ce que Jésus est en train de dire à cette femme, c'est que la priorité de mon ministère appartient aux enfants, c'est-à-dire aux Juifs, et non pas aux animaux domestiques. Jésus ne dit pas qu'il n'y en a pas pour les animaux domestiques, mais ici, dans la perspective de son ministère, c'est qu'il est venu pour Israël. Ça, c'était le but de sa venue. Le salut vient des Juifs. Jésus le savait. Il fallait qu'il respecte cet aspect fondamental de la prophétie de l'Ancien Testament où Dieu devait d'abord se présenter à son peuple parce que la promesse avait été faite à Abraham. Maintenant, ça n'excluait pas les non-Juifs, mais ça priorisait la nation d'Israël. Donc, répondre à la requête de cette mère ne serait pas une chose juste dans le contexte, étant donné qu'il doit premièrement servir les siens, c'est-à-dire les Juifs, avant de pouvoir servir les autres, c'est-à-dire les non-Juifs, ou ce qu'il appelle ici les petits chiens. Madame Matthieu nous donne justement cette information supplémentaire qui est très claire dans la pensée de Jésus, dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ma priorité, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On sait qu'une fois que le peuple juif a rejeté son Messie, l'Église au début était entièrement composée ou pratiquement entièrement composée de juifs ou de prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs qui s'étaient convertis au judaïsme et ensuite sont devenus chrétiens. Mais on sait que par la suite, il y a eu une révolution incroyable où là, comme on sait maintenant, la grande majorité de ceux qui font partie de l'Église sont maintenant des petits chiens. OK? C'est-à-dire des non-juifs, comme vous et moi. Dieu ne nous a pas oubliés. Jésus fait appel à l'ordre domestique qui existait à l'époque où les petits chiens qui vivaient avec les familles ne pouvaient manger que lorsque les enfants avaient été servis et étaient rassasiés. Ici, il ne s'agit pas de chiens errants qui étaient considérés comme étant des charognards, là, mais ici, c'était vraiment des animaux domestiques qui étaient aimés et tout ça. Toutefois, la femme, après avoir donné raison à Jésus sur toute la ligne par rapport à cet ordre domestique, va utiliser en sa faveur un autre fait bien connu de tous. Et ça, ça a été là où elle a démontré son cœur en disant, c'est vrai, mais même les petits chiens domestiques ont la permission de manger ce qui tombe en dessous de la table. Il n'y a pas personne qui est brimé avec ça. Autrement dit, elle a dit, moi, je ne veux rien enlever au peuple juif, je ne veux rien enlever à ton ministère, Jésus. Ce que je veux, c'est que tu fasses quelque chose pour ma fille. Et je suis prête à me contenter d'une miette. Comme si elle savait qu'une seule miette de la part de Jésus serait suffisante pour sa fille. Et ça, ça démontre quoi? Ça démontre le cœur de cette femme. Il y a deux choses qui ont fait la différence pour cette femme. La première, Marc 7, 29, Jésus lui dit, à cause de cette parole, quelle parole? Celle qu'on vient de voir. Oui, Seigneur, c'est vrai. Mais les petits chiens vont manger les miettes qui tombent en dessous de la table. Cette parole était droite face à ce que Jésus venait de lui dire. Ça nous fait penser un peu à ce que Jésus a dit aussi en Matthieu 12. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Vous savez, cette femme, contrairement aux leaders religieux juifs, ne conteste pas ici l'autorité de Jésus ou même son enseignement. C'est ce qu'on a vu dans les versets précédents du chapitre 7. Où les Juifs contestaient son enseignement à Jésus. Elle est d'accord avec ce que Jésus dit. Elle comprend très bien ce qu'il veut dire par ce proverbe et elle est nullement offusquée par cela. Elle va plutôt dans le même sens de l'argument de Jésus, mais en introduisant un autre fait connu, c'est ce qui se passe sous la table. La parole de cette femme est droite car elle vient de son cœur, de l'abondance de son cœur. En ce sens, son cœur était droit devant Dieu. Sa démarche était pure. Elle était sans motif douteux, comme les pharisiens l'étaient eux. La deuxième chose qui est allée en faveur de cette femme, et Jésus le dit, mais on le voit au chapitre, dans Matthieu, au chapitre 15, au verset 28, « Femme, ta foi est grande. » Qu'il te soit fait comme tu veux. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle avait une foi audacieuse en Jésus. Cette femme a tellement confiance en lui qu'elle se contente d'une simple parole, d'une promesse de la part de Jésus. Et ce fut fait. Cette catégorie de foi rappelle justement celle du centurion romain. Matthieu 8, et celle de l'officier royal dans Jean 4, considérée comme étant une grande foi. Maintenant, pourquoi Jésus dit que la foi de cette femme non-juive est grande? Qu'est-ce que ça prend à la foi pour qu'elle soit grande? Jésus a dit de ses disciples qu'ils avaient peu de foi. Imaginez-vous, ses disciples qui étaient avec lui, qui l'entendaient, enseigné à chaque jour, qu'il le voyait faire des miracles, tout ça. À un moment donné, Jésus dit, votre foi, elle est peu, elle est petite. Et elle, ici, elle a une grande foi. Qu'est-ce qui fait la différence? Croire sans voir? OK. L'espoir? OK. Une chose que je vous ai expliquée tantôt, c'est que cette femme-là, son arrière-plan est complètement détaché du Dieu éternel, Yahweh, les promesses, tout ce que Dieu a fait à travers les années pour son peuple. Elle n'a pas la connaissance de la révélation. Elle a très peu de connaissances. Elle a juste entendu parler de Jésus, là. Ça fait peut-être quelques heures, quelques jours qu'elle a entendu parler de lui. Donc, ce qu'elle sait de Jésus, si on prendrait, puis on l'avait rencontré, puis là, j'aurais dit, « Dis-moi ce que tu sais de Jésus. Peux-tu me donner ta confession de foi? » Il y aurait eu quoi comme information? Quelques phrases? OK? D'après ce qu'elle a entendu. Si je m'étais tourné vers les disciples, puis là, je leur ai demandé, « Vous, là, que savez-vous de Jésus? » Même Jésus leur a demandé, qui dit-on que je suis? Puis vous, qui dites-vous que je suis? » Puis là, Pierre a répondu. Puis là, Jésus a dit, « Wow, ça vient, ça, Pierre, c'est brillant. Ça vient d'en haut. ça vient pas de toi. » Mais c'est sûr que les disciples auraient pu écrire beaucoup plus de choses sur Jésus. Donc, un des éléments, je crois, qui fait la différence entre peu de foi et une grande foi, c'est que la femme avait peu de révélations. Et pourtant, elle avait une grande confiance en ce que Jésus pouvait faire pour elle. Tandis que les disciples, qui avaient beaucoup de révélations, ont eu de la misère à faire confiance à Jésus. Pourquoi? Pourquoi les disciples ont eu de la misère à faire confiance à Jésus? Vous rappelez-vous ce que Jésus leur a dit? Ou ce qui est dit dans le texte, dans Marc et ailleurs dans les autres évangiles? L'incrédulité qui est le fait d'avoir peu de foi ou même presque pas de foi. OK? Mais, exact. Pourquoi qu'ils ne comprenaient pas? Il y a une expression qui est dit qui est très importante à mon point de vue. Hein? Non, c'est une expression qui est dans la Bible, là. Hein? Ce qui est dit, c'est la dureté de leur cœur. Pourtant, ils avaient beaucoup de révélations. Donc, ce n'était pas une question de connaissance, là, de la vraie connaissance, de la bonne connaissance. Mais il y avait quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée par rapport au cœur et l'importance du cœur versus la tradition? Jésus pointe où, lui? Il dit, l'important, c'est le cœur. Puis là, il parle ici des faux raisonnements ou des mauvais raisonnements. D'où viennent les mauvais raisonnements ou les mauvaises pensées? Ça vient du cœur. Autrement dit, la différence aussi, c'est non seulement la connaissance que j'ai de la vérité, parce que je peux avoir beaucoup de connaissances puis avoir peu de foi, comme je peux avoir peu de connaissances puis avoir une grande foi. Imaginez-vous un instant cette femme non-juive. Est-ce qu'elle avait un cœur qui était droit devant Dieu d'une manière absolue? Non, c'est évident, c'était une non-juive. Elle n'était pas sauvée, là. C'était une non-chrétienne, c'était une non... Mais il y a une chose qui était que moi je crois, et c'est ceci. C'est que cette femme-là, elle avait un cœur ouvert. Elle n'avait pas de présupposition par rapport à Jésus. Tout comme à Capernaum, quand Jésus est allé là, puis là, les siens, c'est-à-dire ceux de son village, c'est là qu'il a rencontré le plus d'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des idées préconçues sur Jésus. Les disciples avaient quelque chose dans leur cœur qui faisait que leur cœur avait de la misère à faire confiance à Jésus. Et Jésus appelle ça la dureté de leur cœur. Jésus était étonné de voir la dureté de leur cœur. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cœur peut affecter énormément ma relation avec Dieu. Et ça, c'est très important ici. Il y a un an et demi, moi, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point il y avait un problème dans mon cœur. Et ça affectait justement ma foi vis-à-vis de Dieu. Et ce problème-là, c'est qu'il y avait un mensonge qui était comme écrit sur l'ardoise de mon cœur. Puis j'arrivais pas à le voir jusqu'à temps que j'ai demandé à Jésus, « Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Peux-tu me le montrer? » Et savez-vous ce qu'il m'a montré? Il m'a montré le mensonge que j'étais seul dans la vie. Je ne pouvais pas faire confiance à personne. Imaginez-vous, c'était comme ça. Moi, Benoît Lavergne, il faut que je me débrouille seul. Trouve des solutions. Occupe-toi de toi-même. Prends soin de toi. Veille sur toi. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va le faire. Même pas Dieu. Imaginez-vous, c'était le mensonge qui était sur mon cœur. Donc moi, j'avais de la misère à faire confiance à Dieu. Je peux dire que ma foi était petite. J'avais peu de foi. Il y avait une lutte dans mon cœur. Quand Jésus m'a montré ce mensonge-là, et là, il est venu mettre plutôt sa vérité dans mon cœur. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé avec ma foi? Sans que rien d'autre se passe, tout à coup, c'est comme, je sais que Jésus, il est là. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il entend. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Je sais qu'il va prendre soin de ma famille. Je sais qu'il va prendre soin de mes frères et sœurs. Je sais qu'il peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Non! C'est un mensonge qu'il n'écoute pas. Non, c'est un mensonge qu'il n'entend pas. Non, c'est un mensonge qui est indifférent à ma situation. Non, c'est faux. Oui, mais je ne vois pas tout le temps Dieu agir. C'est un mensonge que Jésus est indifférent, qui ne veut rien savoir, puis qui dit « Débrouille-toi par toi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera. » C'est un mensonge. Alors, pour que notre cœur, tu vois, laisse le Seigneur le prendre, prendre le contrôle dessus et mettre la vérité dans notre cœur, c'est pour ça qu'il faut qu'on rencontre Jésus. Et ça, c'est une chose qui est tellement claire ici. Maintenant, il y a un deuxième aspect ou un deuxième miracle qui se passe. Et là, ici, ce n'est pas une mère, mais c'est un groupe de personnes, probablement des amis, qui connaissaient la situation de cet homme, que le texte nous dit qu'il était sourd et qu'il avait de la difficulté à parler. Et on voit ici qu'encore une fois, c'est la foi audacieuse de ces gens qui osent emmener cette personne-là à Jésus. Et ça, je trouve ça tellement incroyable encore une fois. C'est même pas la personne elle-même qui va vers Jésus, c'est quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes ici qui emmène cette personne-là, Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce miracle et dans cette relation que Jésus a eue avec cet homme, c'est qu'il a utilisé une façon un peu particulière. On ne voit pas ça souvent de Jésus. Même ici, c'est vraiment, on pourrait dire, unique à cet homme-là, tout ce qu'il a fait pour cet homme-là. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette méthode que Marc nous parle qui a emmené la guérison complète de cet homme? Premièrement, une chose qu'on voit, c'est que Jésus éloigne l'homme de la foule, donc il veut être à l'écart avec lui. Vous voyez, cet homme-là a de la difficulté à parler, puis surtout de la difficulté à entendre. Okay? La seule chose qui fonctionne bien, dans un sens, c'est sa vue. Okay? Alors, il voit très, très clairement, il n'y a aucun problème de vision. Maintenant, ce qu'on voit, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va utiliser un langage non-verbal avec cet homme, puisque celui-ci a justement un handicap qui est particulier, qui est au niveau d'entendre, puis au niveau de parler. Et ça, c'est assez spécial. Et là, on voit comment Jésus personnalise son approche. Chacun de nous, on est différent. Chacun de nous, on a des besoins différents. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus peut utiliser tous les moyens qu'il a pour entrer en contact avec nous et s'assurer que ce qu'il veut qu'on comprenne, ce qu'il veut qu'on entende, on puisse l'entendre. Mais regardez bien, chaque geste que Jésus va faire sera en fonction de cette réalité et motivé par le désir de Jésus de lui communiquer ce qu'il veut que cette personne-là entende. Premièrement, Jésus fait quoi? Il place ses doigts dans les oreilles de l'homme. Pourquoi? Dans le but de lui communiquer qu'il va faire quelque chose pour ses oreilles. Vous voyez, c'est un langage non-verbal. Ou en venant mettre ses doigts dans ses oreilles, l'homme peut comprendre, je vais toucher à tes oreilles, à ton problème de surdité. Deuxièmement, Jésus touche la langue de cet homme avec sa propre salive. Il va aller toucher sur sa langue. Encore là, dans le but de lui indiquer, je vais aussi régler ton problème que tu as avec la parole. Troisièmement, Jésus lève les yeux vers le ciel pour désigner l'origine de son pouvoir à Jésus et de la source surnaturelle d'où viendra sa guérison. Elle va venir du ciel. Ce mouvement des yeux est un geste délibéré de Jésus. Quatrièmement, Jésus soupira, le texte nous dit, soupira profondément. Ce qui a pour effet de soulever et d'abaisser sa cage thoracique, exprimant par le fait même sa compassion pour cet homme qui a été coupé des communications élémentaires avec ceux qui l'entourent. Jésus montre qu'il a de la compassion pour lui. Finalement, Jésus prononce une parole, un seul mot. Ephphatha. Ce mot est très particulier, puisque Marc le transmet en araméen avant de le traduire par « c'est-à-dire « ouvre-toi ». Dans sa forme originale araméenne, ce mot est composé de trois voyelles et de trois labiales, c'est-à-dire des sons faciles à lire sur les lèvres. Donc, cet homme pouvait lire sur les lèvres de Jésus « Ephphatha » et entendre « ouvre-toi » parce qu'il avait de la misère, était sourd cet homme. Voici un commentaire à ce sujet que je pense qui est très pertinent. Tout le corps de Jésus respire la communication. Les doigts, la salive, les yeux, la poitrine et finalement la bouche. Jésus témoigne ainsi d'une intense volonté d'instruire ce sourd et de lui expliquer le sens de son intervention. Et on sait que Jésus l'a guéri. Imaginez-vous cet homme qui est guéri. Pas étonnant que ça dit par la suite, ils étaient tous émerveillés en le voyant Jésus en action. Et je pense qu'il y en a qui ont compris que ce que Jésus était en train de faire, c'est qu'il était en train de communiquer aussi avec cet homme pour que cet homme puisse le suivre. J'aimerais vous partager un témoignage, justement, d'une personne qui, toute sa vie, a eu ce problème de surdité. Et voir comment Jésus est venu aussi vers cette femme. C'est un témoignage que j'ai reçu récemment. Et j'ai pensé vous le partager parce que ça va tellement bien ici avec ce qu'on est en train de regarder. Elle dit ceci. Durant toute ma vie, je suis passé à côté de plus de la moitié de ce qui se passait autour de moi. Pendant mon enfance, les autres enfants se partageaient des secrets que je n'avais jamais pu entendre. Lors des pratiques à l'école, mes compagnons de classe décidaient de jeux avec lesquels ils voulaient s'amuser. Ils partaient en courant tout joyeux en me laissant derrière car je n'arrivais jamais à comprendre ce qu'ils planifiaient faire. Quand l'enseignant expliquait de nouveaux concepts en classe, je n'arrivais pas à entendre clairement ce qu'elle disait. J'étais donc confuse et je me sentais vraiment comme une nulle. Mes enseignants devenaient impatients envers moi et m'avertissaient de porter une plus grande attention en classe et de travailler encore plus fort si je voulais réussir et monter au prochain niveau. Ceci fut l'histoire de ma vie. Je suis né avec un handicap de surdité aux deux oreilles. Ma capacité auditive a donc été grandement affectée, rendant mon habileté à entendre correctement ou normalement très difficile, et ce depuis ma naissance. Étant donné que je n'étais pas complètement sourde, personne ne s'est aperçu de mon handicap pendant plusieurs années. Puis finalement, lorsque j'étais en troisième année, mon professeur a soupçonné que quelque chose n'allait pas. Elle a recommandé que mes capacités auditives soient évaluées. Je suis donc allé consulter à l'âge de 10 ans un spécialiste des oreilles. Le diagnostic ne laissait aucun doute, un handicap auditif sévère aux deux oreilles. Dorénavant, mon problème avait un visage, mais cela ne changeait absolument rien à ma situation. Je ne pouvais toujours pas entendre distinctement. Je continuais à ne pas saisir grand-chose de ce qui se passait autour de moi. Mon handicap auditif m'amenait à me sentir tellement différente des autres. Il m'arrivait souvent de saisir seulement la moitié des choses que les gens disaient. J'essayais alors de deviner le reste. Très souvent, je devinais mal et je me trompais et les gens se moquaient de moi. J'étais frustré, je me sentais tellement stupide. En vieillissant, je faisais semblant d'avoir compris ce que les gens disaient pour ne pas être mis de côté et me sentir complètement nul. Pourtant, c'est exactement comme cela que je me sentais exclu, puisque je n'arrivais pas à bien deviner ce qui se passait. Je me sentais même complètement perdu et très seul. Toute ma vie, j'étais convaincu d'être une nulle. Je me suis jamais vu comme étant aussi bonne ou aussi intelligente que les autres. Même en tant qu'adulte, j'ai toujours eu l'impression que les gens me traitaient différemment. Parfois, il y avait des personnes qui remettaient en question ma capacité à faire certaines tâches ou à accomplir certains ministères à cause de mon handicap auditif. À chaque fois que les gens me traitaient ainsi, je me sentais mise de côté et moins que rien. La petite fille à l'intérieur de moi voulait seulement s'enfuir en courant à toute vitesse pour trouver un endroit sécuritaire où elle pouvait aller se cacher. Je n'avais pas réalisé le lien entre mon handicap auditif et mon sentiment d'infériorité, d'insignifiance et de rejet. Je n'avais jamais compris non plus la blessure que ma difficulté à entendre avait causée à mon cœur. En 2010, mon mari et moi, nous sommes venus au Colorado pour terminer notre formation. Étant sur place, nous avons eu alors le privilège d'avoir une semaine de counseling centrée sur le cœur. Lors de l'une de nos rencontres, j'expliquais comment mon problème auditif avait été un obstacle majeur dans ma vie. Lorsque M. Regeer m'a posé une question toute simple. « Ça fait depuis combien de temps que tu as cette difficulté à entendre? » Je lui ai répondu que j'avais toujours eu cet handicap. M. Regeer a alors voulu illustrer ce qu'était ma douleur en utilisant une feuille de papier. Il a écrit un grand D sur la feuille afin de représenter ma douleur. Puis il a écrit le mot « entendre ». Aussitôt que j'ai vu ce petit diagramme, je me suis effondré dans les bras de mon mari en pleurant à chaudes larmes et sans que je ne puisse me contrôler. Enfin, quelqu'un venait de comprendre. Personne n'avait jamais compris ce que je ressentais, la douleur que j'avais en dedans et ce qui l'avait causé. Pour la toute première fois de ma vie, je me suis vraiment senti comprise par quelqu'un. En priant, Jésus m'a aidé à laisser sortir toute la douleur présente depuis tant d'années dans mon cœur. En continuant à prier, Jésus m'a dit que je pouvais entendre avec mon cœur. Il m'a alors donné une image de mon cœur sur laquelle il y avait deux oreilles d'attachées. Puis Jésus m'a dit que lorsque j'entends avec mon cœur, tout est clair et sans aucune distorsion. Il m'a aussi montré que ma guérison impliquerait aussi d'autres personnes. Depuis, j'ai eu l'occasion de raconter mon histoire dans mon église locale et dans d'autres endroits. À chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui, ayant un handicap physique, vient vers moi pour me remercier. Il ou elle a vécu une douleur émotionnelle et s'est senti différent à cause de cela. Pour la première fois, eux aussi sentent que quelqu'un comprend ce qu'ils vivent. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu ne gaspille aucune de nos souffrances? N'est-ce pas merveilleux de savoir que quelqu'un comprend? Marc nous dit que la foule qui fut témoin des miracles de Jésus a eu une triple réaction. Ils ont publié la nouvelle à tout le monde, malgré l'interdiction de Jésus. Deuxièmement, ils ont tous été dans un étonnement extraordinaire. Et ils dirent, il fait tout à merveille. Oui, Jésus fait tout à merveille. Voilà l'effet que Jésus est capable d'avoir sur les gens qui souffrent et qui le rencontrent. Il fait tout à merveille. Ce matin, si vous êtes un parent, sachez que Jésus peut intervenir dans la vie de votre enfant grâce à votre foi audacieuse qui se traduira par une intercession fervente en sa faveur. Prenez courage, il y a de l'espoir pour votre enfant. Jésus peut même intervenir à distance dans la vie de votre enfant à cause de vous, à cause de votre foi, à cause de vos prières. Suivez l'exemple de cette femme qui, ayant entendu parler de Jésus, de son pouvoir et de sa compassion pour ceux qui souffrent, est allée vers Jésus, s'est jetée à ses pieds avec un cœur soumis, un cœur humble et, je dirais, un cœur nécessiteux. Son cœur était ouvert. Elle savait intérieurement que la seule personne dans ce monde qui pouvait faire quelque chose pour guérir sa fille était Jésus. Rien ni personne d'autre pouvait le faire, mais Jésus pouvait le faire. Et ça, ça a été sa foi. Je vous inviterai, si vous le voulez, à faire cette prière avec moi ce matin. Si vous avez justement quelqu'un, soit quelqu'un qui est dans votre famille, que justement un de vos enfants, ou encore quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est dans votre groupe de prière, dans votre groupe vie, et qui a un besoin. Faites cette prière à Jésus ce matin. Seigneur, par ta grâce et ton pouvoir, éloigne l'influence de l'ennemi de mon enfant pour qu'il soit libre de t'aimer et te servir. Peux-tu, Seigneur, éloigner l'ennemi, reprendre le terrain que l'ennemi a pu s'approprier dans la vie de mon enfant par sa participation à des activités associées au monde des ténèbres ou des péchés qui auraient pu donner accès au diable ou pour toute autre raison? Peux-tu, Seigneur, briser les liens de l'ennemi sur l'âme de mon enfant, qui le retiendrait loin de toi, ou qui l'empêcherait de se tourner vers toi par la foi? Je te demande également de me montrer à moi les façons par lesquelles l'ennemi aurait pu m'influencer et essayer de détruire ma famille. Seigneur Jésus, je te cède ce matin le plein contrôle de ma propre vie. Et je désire vivre uniquement pour toi. Si vous avez un handicap quelconque ce matin, je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Seigneur, vois-tu mon handicap? Vois-tu ce que cela a engendré dans ma vie? Vois-tu comment les autres m'ont traité? Jésus, est-ce que tu te soucies de moi? Étais-tu là quand les autres m'ont mis de côté ou se sont moqués de moi? Seigneur, si telle était ta volonté parfaite pour ma vie, je sais que tu as le pouvoir de guérir mon corps. Tu n'aurais sûrement qu'une seule parole à prononcer et je serai guéri. Maintenant, je sais aussi, Jésus, que tu veux guérir mon cœur. Peux-tu me donner une image de mon cœur blessé? Comment veux-tu guérir mon cœur, Jésus, comme tu as guéri le cœur de cette femme? Peux-tu me le montrer? Merci, Seigneur Jésus, d'avoir de la compassion, de la compréhension. Merci pour la manière dont tu me connais et le fait que tu veux que je puisse placer ma confiance en toi. Tu connais les luttes de mon cœur, Jésus. Tu sais pourquoi j'ai tellement de difficulté des fois de faire confiance. Peux-tu me montrer, Seigneur, s'il y a un mensonge dans mon cœur pour que je puisse te l'apporter? J'aimerais tellement, Seigneur, avoir une grande foi en toi. Je viens à toi, Seigneur, ce matin, parce que je sais que tu es vivant. Je sais que tu es tout-puissant. Et je sais que tu es ému de compassion devant ma situation, devant mes besoins. Et je m'approche de toi par la foi ce matin. Merci, Jésus, d'avoir entendu ma prière. Et je m'en remets entièrement à toi. Amen.